Bienvenue dans The Debate. Imaginez un instant que vous écoutiez votre matinale d'information. Vous savez, le rendez-vous classique du matin.
Ouais, le café à la main, prête à entendre les gros titres.
Exactement. Le présentateur s'apprête à vous livrer les faits de la journée. Des faits froids, bruts, vérifiés.
Jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire.
Voilà, une matinale, tout ce qui est plus normal. Mais juste avant de lancer les infos, la musique ralentit. Il vous demande de fermer les yeux, de respirer profondément, et de partager une prière adressée à Jésus-Christ.
Ce qui, avons-le, fait l'effet d'un véritable électrochoc.
C'est clair, ça surprend, non? Eh bien, c'est pourtant très exactement l'expérience que propose le média Radio Tam Tam Africa.
C'est vrai que, en tant qu'auditeur, la première réaction, c'est un bug cérébral total. On se demande instantanément, attendez, je suis branché sur une chaîne d'investigation ou je suis assise au fond d'une église.
C'est toute la puissance de cette archive que nous analysons aujourd'hui. Ce texte court, intitulé « Prière du lundi », c'est un cas d'école fascinant. D'un côté, il assume totalement une liturgie chrétienne, avec des indications de mise en scène très claires, une voix sacrée, des nappes sonores spirituelles.
Oui, l'emballage complet.
C'est ça. Et de l'autre, il vient sceller cette prière par la devise inébranlable du média, à savoir le pouvoir des faits, tout ça sous la bannière d'une rédaction qui se revendique comme la voix du Sud.
Ce qui crée une collision frontale, en fait, entre deux mondes qui, historiquement, ont tout fait pour se séparer. D'un point de vue purement éditorial, c'est un objet explosif.
Absolument explosif. Et c'est la question centrale de notre échange aujourd'hui. Ce document prouve-t-il que l'ancrage spirituel peut réellement servir de fondation psychologique et éthique à une démarche journalistique factuelle?
Ou bien au contraire, sommes-nous face à une faille sismique impossible à combler? Une contradiction mortelle entre l'adhésion à un dogme religieux spécifique et la promesse d'une information totalement indépendante?
Voilà le cœur du problème. Pour ma part, je suis convaincu que ce texte réussit une synthèse inattendue, mais vraiment brillante. Il pose un postulat très fort. La force intérieure et la méditation ne sont pas les ennemis de l'objectivité. Au contraire, ce sont les prérequis indispensables pour qu'un esprit humain puisse porter et encaisser la vérité des faits.
Et je me positionne à l'exact opposé. Pour moi, on est face à un paradoxe structurel totalement insoluble.
Ah oui, insoluble, carrément.
Oui, parce qu'en fusionnant de la sorte la rhétorique de la prière et celle du journalisme, le média brouille dangereusement les frontières. Il mélange la vérité révélée, qui relève de la croyance intime, de la foi, et la vérité empirique, qui, elle, est le socle laïque et vérifiable de notre espace public commun. Ce sont deux paradigmes incompatibles.
Pour ceux qui nous écoutent et qui sont de fervents défenseurs de la séparation stricte entre journalisme et religion, je sais que cette juxtaposition peut ressembler à un cauchemar épistémologique.
C'est un peu le terme, oui.
Mais regardons de plus près la mécanique psychologique à l'œuvre ici. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de croire que le cerveau humain qui reçoit ou produit l'information fonctionne comme un ordinateur.
Ce n'est pas le cas, bien sûr.
Non, pas du tout. L'esprit du journaliste, tout comme celui de l'auditeur d'ailleurs, c'est plutôt comme l'objectif d'un appareil photo.
C'est-à-dire, vous entendez quoi par là?
Eh bien, le lundi matin, face à l'angoisse de la semaine, face à ce que le texte décrit si justement comme un poids ou une bataille silencieuse, cet objectif est totalement embué par le stress.
Je vois l'idée.
Si vous essayez de capturer les faits à ce moment-là, la photo sera floue. Votre perception sera déformée par votre chaos intérieur. La prière, ici, elle agit comme un chiffon microfibre.
Un chiffon?
Oui, elle vient nettoyer la lentille. Quand le texte invoque la lumière dans nos décisions et la force dans nos actions, il équipe mentalement l'individu. La foi vient fournir la discipline émotionnelle nécessaire pour être un bâtisseur de vérité.
L'image de l'objectif photographique est très belle, je vous l'accorde, mais c'est là que ça coince pour moi.
Ah bon?
Oui, je comprends qu'on veuille nettoyer la lentille, mais le vrai fond du problème, ce n'est pas le nettoyage, c'est la nature de la lumière que l'on laisse passer à travers.
Développez un peu.
Il faut qu'on s'arrête un instant sur l'épistémologie du texte, sur la façon dont il définit ce qu'est la vérité. Regardez la clôture du document. On s'adresse à toi qui portes les douleurs du monde, on dit « Amen », et boum, dans la foulée, on martèle le slogan « Le pouvoir des faits ». Mission s'obtiennent par le doute. L'empirisme, le journalisme, c'est douter les sources, c'est croiser les données.
Oui, c'est la base du métier.
Or, comment la prière fonctionne-t-elle ici? Le texte demande explicitement à Dieu que là où il y a le doute, tu inspires la foi. Vous voyez la mécanique? Le média demande à une force divine de dissiper le doute. Mais un journaliste qui demande au ciel d'effacer le doute, c'est un journaliste qui rend les armes, en fait.
Mais attendez, vous ne croyez pas qu'il parle du doute existentiel plutôt que du doute journalistique, non ?
La frontière est floue. Comment pouvez-vous revendiquer l'indépendance de votre rédaction si la source ultime de votre certitude, c'est une illumination spirituelle invérifiable ?
Je vous arrête là, parce que si on regarde la section où ils définissent l'action de parler, le texte dit « car tout commence par une parole juste ».
Oui.
Et c'est cette parole qui devient une force. Ils ne disent pas que Dieu va leur dicter les dépêches de l'agence de presse, voyez ?
Encore heureux, j'ai envie de dire.
Mais oui, la prière utilise des injonctions très pratiques. Parlez avec conscience, agissez avec intention. L'infusion divine dont vous parlez, elle ne porte pas sur le contenu de l'information.
Elle porte sur quoi alors ?
Elle porte sur l'intégrité de celui qui la prononce. C'est un filtre éthique, c'est tout.
Elle en plein milieu d'une église.
Un tribunal dans une église, c'est-à-dire ?
D'un côté, ils utilisent tout le vocabulaire juridique de l'espace public, la justice, les faits, la vérité. Mais la méthodologie, le rituel qu'ils imposent, c'est celui de l'église.
Parce que la forme est religieuse, oui ?
Exactement. La voix est sacrée, et ça se termine par un « amen ». L'amen, mécaniquement, c'est l'acceptation sans appel. Ainsi soit-il. C'est fini, on ne discute plus.
Je pense que vous faites une lecture beaucoup trop littérale et rigide des catégories là.
Ah bon ? Mais le journalisme exige le droit d'appel, le débat contradictoire. Si votre ligne éditoriale est validée par le divin, toute critique de votre média devient, une forme de blasphème.
Non, parce que ce média ne prétend pas faire de l'investigation pendant la prière elle-même. Il faut analyser le parcours qu'il propose, de la reconstruction individuelle vers la mission collective. C'est au cœur de leur dispositif. Écoutez ce qu'ils disent dans la partie méditation. Vous ne pouvez pas réécrire hier, mais vous pouvez transformer aujourd'hui.
Oui, bon, ça c'est la partie très développement personnel, on va dire.
Exactement, mais c'est profondément ancré dans le réel. Ce média fait un diagnostic clinique très juste. Les gens sont épuisés par ce qu'ils appellent ce monde agité.
La fatigue informationnelle, oui, c'est un vrai sujet.
Si vous envoyez la dureté des faits, la guerre, la corruption, à des esprits qui sont brisés, ces faits n'occréeront aucune action civique. Ils créeront juste de la paralysie.
Ou du cynisme.
Ou du cynisme, voilà. La prière, ici, elle fonctionne comme une technologie de résilience. C'est un sas de décompression. Il faut d'abord remettre l'individu debout pour qu'il ait ensuite l'énergie de choisir la vérité.
Je vois tout à fait comment cette mécanique opère. Et sur le besoin de réparer l'individu face à un monde anxiogène, on est d'accord.
Bon, au moins, un point d'accord.
Mais laissez-moi vous montrer comment cette méthode précise, ce choix de la prière chrétienne, détruit la promesse universelle du média.
En quoi ça la détruit ?
Par la création d'une communauté exclusive. Analysons les mots. La prière formule des requêtes très spécifiques. Protège nos familles, guide nos pas.
Oui.
Et elle le fait au nom de Jésus-Christ. À la seconde où la voix prononce ce « nous », ce « nous », la chimie du cerveau de l'auditeur change.
C'est l'effet de groupe.
Oui, on passe d'un rapport de présentateur à public à un rapport de guide spirituel à congrégation. Le média crée un groupe d'appartenance. C'est très puissant pour la fidélisation, oui. Mais Radio Tam Tam Africain se définit comme la voix du Sud.
Ce qui implique une dimension internationale et panafricaine, bien sûr.
Précisément. Et le Sud global est pluriel. Il est multiconfessionnel. Il y a des millions de musulmans, d'animistes, d'agnostiques. Comment pouvez-vous prétendre être la voix de cet ensemble tout en imposant une théologie spécifique comme condition d'entrée ?
C'est une critique redoutable, je vous l'accorde. Sur la question de la représentativité, c'est un vrai défi.
Ceux qui ne prient pas le Seigneur Jésus-Christ sont-ils exclus du pouvoir des faits ? L'inclusion universelle que promettent les faits se heurte violemment à l'exclusion inhérente au dogme, voyez ?
Je comprends votre point, mais pour saisir l'impact réel, je pense qu'il faut dépasser le texte écrit et entrer dans l'emballage sensoriel du document.
L'esthétique sonore, oui.
Le « comment » est aussi important que le « quoi ». La réalisation sonore de cette prière n'est pas un hasard. On parle d'un piano doux, de nappes spirituelles, d'une voix introspective. Et surtout, d'un volume abaissé de 25%, sans parler des pauses de 3 secondes entre les phrases.
Et ces choix sonores sont exactement ce qui me convainc qu'il y a une manipulation de la réception.
Ah, je vous arrête tout de suite, je vois très bien où vous voulez en venir. Vous y voyez de la manipulation affective. Mais regardons ça sous le prisme des neurosciences.
Allez-y.
Nous vivons sous la dictature d'un écosystème médiatique qui a fait du piratage de notre attention son modèle économique. Les chaînes d'infos en continu, les alertes stridentes.
Le doomscrolling, oui.
Voilà, tout est conçu pour générer des pics de cortisol. Dans cet environnement, le cerveau est constamment en mode survie. Il ne traite plus les informations rationnellement.
Ce qui est effectivement le drame du journalisme moderne, on est d'accord là-dessus.
Alors que fait ce média ici, avec ce piano doux et ses silences? Ils appuient sur un bouton de réinitialisation neurologique.
Un bouton de réinitialisation?
Oui, c'est une rébellion éditoriale extrêmement sophistiquée.
Ouais.
En forçant l'auditeur à s'arrêter, en baissant le volume, ils forcent le rythme cardiaque à ralentir. Ce que vous appelez la liturgie, c'est en fait l'espace cognitif qu'ils dégagent pour que la rationalité puisse exister.
Préparer le terrain de la rationalité en baissant la garde critique avec de la musique d'ambiance, c'est une pirouette intellectuelle fascinante, mais soyons très concrets. C'est une contradiction dans les termes.
Vous trouvez ?
Ce que vous décrivez avec beaucoup d'élégance comme un bouton de réinitialisation, bah moi je l'appelle du conditionnement pavlovien.
Le mot est fort quand même.
Mais regardez les mécanismes en œuvre. On sait depuis des décennies comment la musique agit sur le cerveau limbique, celui des émotions. Ces nappes spirituelles, cette voix chuchotée, c'est l'esthétique exacte de l'hypnose.
De l'hypnose, n'exagérons rien.
Ou de la persuasion sectaire. Le but n'est pas de créer de l'espace pour la raison. Le but est de contourner les défenses intellectuelles. Et la preuve irréfutable de cette manœuvre, elle se trouve à la toute fin du texte.
Qu'est-ce qu'il y a à la fin ?
Après avoir créé cette bulle émotionnelle, le texte opère un pivot brutal vers un appel à l'action très terre-à-terre.
Ah, vous parlez du message d'abonnement ?
Bien sûr. Abonnez-vous, soutenez une parole libre. C'est là que le système se révèle. Il y a une confusion des genres totale. L'autorité de la religion. Son pouvoir de réconfort, tout cela est instrumentalisé pour valider une marque médiatique.
C'est une lecture très cynique de leurs intentions, vous ne trouvez pas ?
On conditionne chimiquement l'auditeur pour qu'il associe la marque au soulagement psychologique. C'est brillant d'un point de vue marketing, je le reconnais. Mais ce n'est plus du journalisme. C'est du marketing émotionnel pour vendre des abonnements.
Vous réduisez une démarche potentiellement très sincère à un vulgaire entonnoir de conversion commerciale. Ce refus d'admettre que l'être humain puisse tenir ensemble ces deux dimensions, le besoin d'élévation et la réalité matérielle, je trouve que ça limite notre compréhension.
Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'analyse pure et dure des structures d'autorité, voyez.
Prenons un peu de recul pour synthétiser nos points de vue. Si l'on rassemble les fils de mon argumentation, je maintiens que ce document nous offre une vision holistique, globale, de ce que doit être la consommation de l'information aujourd'hui. Dans ce modèle, il n'y a pas un mur de béton entre notre esprit et le monde matériel. La force intérieure que l'on puise dans une prière, ce n'est pas un filtre qui masque la réalité. C'est la charpente morale qui nous permet de supporter le poids des faits.
C'est votre position, oui.
La foi pour l'intention et la résilience et le journalisme empirique pour la direction. C'est une proposition qui, selon moi, redonne une âme à la mécanique froide de l'information.
Et pour synthétiser la mienne, je maintiens que ce texte restera comme un cas d'étude vertigineux de dissonance cognitive institutionnelle.
Vertigineux carrément ?
Absolument. Il illustre à merveille cette tension très humaine entre notre besoin de réconfort face à un monde incertain et l'exigence clinique, souvent inconfortable, de la vérité empirique. Vous ne pouvez pas marier l'hôtel et la salle de rédaction sans faire de compromis.
C'est une façon de voir les choses.
Quand vous réclamez que la lumière vienne d'en haut pour effacer vos doutes, vous renoncez au doute méthodologique, qui est le seul véritable outil d'investigation dont nous disposons ici-bas. Le média fragilise l'universalité des faits qu'il prétend défendre.
Ce qui ressort très clairement de notre échange, en tout cas, et je pense que nous serons d'accord là-dessus, c'est l'incroyable densité de ce court extrait audio. Radio Tam Tam Africa ne se contente pas de transmettre des données.
Non, ça c'est sûr.
Ils essaient de transformer l'acte même de s'informer en une expérience de réparation individuelle.
Tout à fait. Et indépendamment du fait que l'on juge cette méthode dangereuse ou bénéfique, cette volonté de charger l'actualité d'une fonction presque thérapeutique mérite vraiment d'être décortiquée, sans dire long sur l'état de fatigue de notre société.
Et cela nous renvoie à notre propre rapport à l'actualité. La prochaine fois que vous écouterez votre matinale, posez-vous cette question. D'où vient réellement l'autorité que vous accordez à ce média ?
Excellente question.
Repose-t-elle strictement sur l'impeccabilité de leurs sources factuelles ? Ou bien cette confiance est-elle secrètement nourrie par le confort émotionnel qu'ils ont su construire autour de vous ? Les faits ne flottent jamais dans le vide absolu, et la façon dont nos croyances filtrent la réalité publique est un champ fascinant. Le débat continue. Merci de nous avoir accompagnés, et à très bientôt.